voilà un conte tel que je le raconte à l'hôpital ou ailleurs d'ailleurs. C'est un de ceux que j'aime le plus. Je l'enregistre spécialement pour toi, Marie-Josée, car je l'ai enregistré dans le temps, une fois d'après le livre, une autre fois comme ça en parlant, et bien sûr, j'ai donné les cassettes et je ne les ai plus. L'amour des trois oranges. Il était une fois un roi et une reine dont le fils, un prince bien sûr, était extrêmement adroit et aimait jouer à toutes sortes de jeux. Et pourtant un jour, il fut maladroit. Il s'amusait avec une balle dans la cour du château et il lança la balle juste au moment où passait une vieille qui portait un flacon d'huile précieuse et la balle alla casser le flacon d'huile. La vieille était furieuse et elle s'écria
« Prince, tu ne seras plus jamais heureux tant que tu n'auras pas trouvé l'amour des trois oranges. »
Et aussitôt, le prince devint triste. Il ne jouait plus, il ne mangeait presque plus, il ne parlait presque plus et il ne faisait que répéter tout le temps « Je veux aller trouver l'amour des trois oranges. » Mais l'amour des trois oranges, qu'est-ce que c'est ? Lui demandait la reine, sa mère. « Je ne sais pas, mais je veux aller chercher l'amour des trois oranges. »
« Mais l'amour des trois oranges, où est-ce qu'il est ? »
demandait le roi, son père. « Je ne sais pas, mais je veux aller chercher l'amour des trois oranges. » Et comme il devenait de plus en plus triste, de plus en plus maigre, finalement son père lui donna l'autorisation de partir à la recherche de l'amour des trois oranges, mais à condition qu'il fût accompagné de deux serviteurs fidèles. Ils partirent donc, et comme ils ne savaient pas où aller, ils se dirigèrent au hasard vers le sud. Ils marchèrent des mois, ils marchèrent des années. Ils traversèrent des déserts brûlants et secs. Ils échappaient à des lions, des bêtes féroces. Et un soir, fatigués, épuisés, affamés, assoiffés surtout, ils arrivent devant une pauvre cabane.
Entrez !
La vieille qui leur ouvre la porte est vraiment très vieille. Et elle leur dit
« Malheureux, que faites-vous ici ? Ne savez-vous pas que mon fils, le vent du sud, s'il vous trouvait, vous dévorerait ? Il sent l'odeur de chair humaine, de très loin. »
« Oh, madame, par pitié, par charité, permettez-nous de nous reposer. » « Donnez-nous à manger et surtout à boire, » dit le prince.
« Bon, bon, mais faites vite !»
Elle leur donne à manger, elle leur donne à boire et les cache dans la cave. Voilà qu'à minuit, le vent du sud arrive. On l'entend venir de très loin. Et quand il entre, la pièce devient comme une fournaise. Elle se remplit en même temps de sable et de poussière en tourbillon. Et le vent du sud dit
« Mère, je sens l'odeur de chair humaine. »
« mais non, c'est un mouton que j'ai fait cuire pour ton dîner. Assieds-toi et mange. »
« Je sens l'odeur de chair humaine, te dis-je. »
« Assieds-toi et mange, te dis-je. On obéit à sa mère d'abord. »
Il s'assied, il mange, et quand il a fini, sa mère lui demande.
« Eh bien, mon fils, as-tu bien mangé ? Es-tu rassasié ?»«
Oui, mère, merci. »
« Il y a ici trois voyageurs qui cherchent l'amour des trois oranges. »
« Oh, les malheureux, fais-les venir. »
Elle ouvre la porte de la cave et les fait monter. Le prince raconte leur histoire.
Vous allez au-devant d'une mort presque certaine, dit le vent du sud. Mais prenez avec vous de l'huile et de la graisse.
Pourquoi faire ? Demande le prince.
Vous le saurez plus tard.
Et après s'être reposé, il repart en remerciant la vieille et le vent du sud. Les voici maintenant qui marchent vers le nord. Ils marchèrent des mois, ils marchèrent des années. Ils glissaient sur la glace, ils enfonçaient dans la neige jusqu'au ventre. Ils échappent par miracle à des hordes de loups, à des ours blancs. Et les voici un soir, épuisés, affamés, glacés, devant une pauvre cabane.
Entrez !
La vieille qui leur ouvre pourrait être la grand-mère de celle qu'ils ont vue dans le sud.
Malheureux, que faites-vous ici ? Si mon fils, le vent du nord, vous trouvait, il vous dévorerait.
Ah, madame, par pitié, par charité, donnez-nous à boire et à manger, permettez-nous de nous reposer et surtout de nous chauffer. Nous sommes glacés jusqu'à la moelle des os.
Bon, bon, mais faites vite.
Après avoir mangé, la vieille les cache dans le four à pain. Le four a été vidé de la braise, bien sûr. Il reste tiède. Et voilà que vers minuit, le vent du nord arrive. On l'entend venir de très loin. Et quand il ouvre la porte, la température de la pièce baisse subitement et des fleurs de glace se forment sur les vitres.
Mère, je sens l'odeur de chair humaine.
Mais non, c'est un veau que j'ai fait préparer pour ton dîner. Assieds-toi et mange.
Je sens l'odeur de chair humaine, te dis-je.
Assieds-toi et mange, te dis-je. On ne réplique pas à sa mère.
Il s'assied, il mange, et quand il a fini.
Eh bien, mon fils, as-tu bien mangé ? Es-tu rassasié ?
Oui, mère, merci.
Il y a ici trois voyageurs qui cherchent l'amour des trois oranges.
Oh, les malheureux, fais-les venir.
La vieille ouvre la porte du four. Et le prince et ses compagnons en sortent à quatre pattes.
Vous allez au-devant d'une mort presque certaine, dit le vent du nord, mais prenez avec vous des pains et des glands.
Mais pourquoi faire ? Demande le prince.
Vous le saurez plus tard.
Et les voilà qui repartent, après avoir remercié le vent du nord et la vieille. Ils se dirigent cette fois vers l'est. Ils marchèrent des mois, ils marchèrent des années. Ils traversèrent des forêts immenses. Les buissons égratignaient leurs jambes et déchiraient leurs vêtements. Ils enfonçaient dans des marais. Ils étaient trempés de pluie. Et un soir, fatigués, affamés, trempés, transpercés jusqu'aux os, ils arrivent devant une pauvre cabane.
Entrez !
La vieille qui leur ouvre est plus vieille que les deux premières réunies. Et elle s'écrie :
Malheureux, que faites-vous ici ? Si mon fils, le vent d'Est, vous trouvait, il vous dévorerait. Il sent l'odeur de chair humaine.
Ah, madame, par pitié, par charité, donnez-nous à manger, à boire, permettez-nous de nous reposer et surtout de nous sécher, de faire sécher nos habits.
Bon, bon, mais faites vite.
Elle leur donne à manger, à boire, et après avoir fait sécher leurs habits au feu, ils se cachent dans le grenier. Voilà que vers minuit, le vent d'Est arrive.
On l'entend venir de très loin, au fracas des branches qu'il casse, des arbres qu'il renverse. Et quand il entre dans la pièce, c'est un tourbillon de feuilles mortes qui l'accompagne. Mère, je sens l'odeur de chair humaine.
Mais non, mais non. C'est un bœuf que j'ai fait cuire pour ton dîner. Assieds-toi et mange.
Je sens l'odeur de chair humaine, te dis-je.
Assieds-toi et mange, te dis-je, et ne réponds pas à ta mère.
Il s'assied, il mange le bœuf tout entier, y compris les os, les cornes, la peau. Et quand il a fini,
« Eh bien, mon fils, as-tu dîné? Es-tu rassasié ?»«
Oui, mère, merci, je n'ai plus faim. »«
Il y a ici trois voyageurs qui cherchent l'amour des trois oranges. »«
Ah, les malheureux, fais-les venir. » Elle les fait descendre du grenier et le prince raconte leur histoire.
« Vous allez au-devant d'une mort presque certaine, ils vont d'est, mais prenez avec vous des balais, des cordes et des peignes. »«
Mais pourquoi faire ?» demande le prince.
« Vous le saurez plus tard. »
Et après avoir remercié le vent d'est et sa mère, ils repartent. Cette fois-ci, bien sûr, ils vont vers l'ouest. Ils marchèrent des mois. Ils marchèrent des années. Et un soir, ils sont si las qu'ils se couchent par terre et qu'ils appellent la mort. Ils n'iront pas plus loin. Ils sont au bord d'un ravin. Et voici que la nuit tombe. Et ils s'aperçoivent que de l'autre côté du ravin, ce qu'ils ont pris pour des rochers est un château, car les fenêtres s'illuminent.
« Mes amis, dit le prince, je sens que nous touchons au but. Demain matin, nous ferons un dernier effort. Nous passerons ce ravin, si Dieu nous aide. Nous entrerons dans ce château. Et je sens que c'est là qu'est la clé du mystère. »
Le lendemain matin, ils descendent à grand-peine dans le fond du ravin, ils escaladent à plus grand-peine encore la paroi rocheuse opposée, et les voici devant le château. Ce château est entouré d'une grille avec une porte de fer. Mais cette grille, cette porte, tout cela est vieux, rouillé. La clé est sur la serrure. Le prince veut tourner la clé dans la serrure, mais c'est tellement rouillé que la clé ne tourne pas. Alors le prince prend l'huile que le vent du sud lui a dit d'emporter. Il la verse doucement dans la serrure et peu à peu, en s'y prenant de nombreuses reprises, il arrive à dégripper la serrure et à y faire tourner la clé. Mais la porte ne s'ouvre quand même pas, car les gonds sont rouillés eux aussi. Alors le prince et ses compagnons, avec la graisse qu'ils ont emportée, oignent longuement les gonds, et peu à peu, ils arrivent à ouvrir la porte. Ils entrent dans une première cour.
Wow, 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 wow.
Des chiens gros comme des lions se précipitent sur eux pour les dévorer. Mais le prince et ses compagnons leur jettent les pains qu'ils ont emportés sur les conseils du vent du nord, et les chiens se jettent sur les pains et, rassasiés, les laissent passer. Les voici dans une deuxième cour. Des cochons gros comme des bœufs se précipitent sur eux pour les éventrer. Mais le prince et ses compagnons leur jettent les glands et les cochons les laissent passer. Les voici dans une troisième cour. Dans cette troisième cour, des femmes géantes puisent l'eau dans un puits. Mais comme elles n'ont pas de cordes, elles attachent le seau à leurs longs cheveux et naturellement, cela leur fait très mal. Elles veulent jeter les princes et ses compagnons dans le puits pour les noyer. Mais le prince leur donne les cordes qu'il a apportées et reconnaissant, les femmes les laissent passer jusqu'à la quatrième cour. Dans la quatrième cour, ce sont d'autres femmes qui, les bras nus, retirent la braise qui est dans un four. Et bien sûr, leurs bras étant nus, sont tout brûlés. Elles veulent jeter le prince et ses compagnons dans le four. Mais le prince leur donne des balais. Et à l'aide des balais, les femmes enlèvent la braise sans se faire de mal. Elles les laissent passer. Les voici maintenant dans le hall du château. Un grand escalier monte en tournant jusqu'au premier étage, mais il est tellement encombré de poussière, d'ordures, de toiles d'araignée qu'on ne peut pas y passer. Alors le prince et ses compagnons, avec d'autres balais qu'ils ont apportés, nettoient l'escalier et ils montent au premier étage. Le premier étage, c'est une immense pièce, tout en longueur. Elle fait toute la longueur du château. Au milieu de cette pièce, dans un vaste fauteuil, une vieille femme est assise. Ses cheveux blancs, ou plutôt gris de saleté, tombent jusqu'à terre. Ses cheveux sont entortillés et ils sont pleins de vermine. Et cela la démange et l'empêche de s'endormir alors qu'elle est lasse, lasse, infiniment lasse. Alors le prince et ses compagnons, avec des peignes, lentement, longuement, démêlent les cheveux et les débarrassent des pouces et des puces. Et la vieille finit par s'assoupir. Alors, le prince regarde autour de lui et sur un buffet, dans une coupe, il aperçoit trois oranges. Trois oranges ! Il court à la coupe, il prend les trois oranges, il les fourre dans sa chemise et il cherche à s'enfuir. Mais la vieille, qui n'était qu'assoupie, se réveille et elle crie « Escalier, escalier, il se sauve, empêche-les de descendre !» Et l'escalier crie « Tu m'as laissé envahir par la saleté, l'ordure, la poussière, les toiles d'araignée, et eux m'ont nettoyé et débarrassé. Qu'ils descendent. Femme, femme qui êtes dans la quatrième cour, jetez-les dans le four et brûlez-les. Tu nous as laissé nous brûler les bras. Eux nous ont donné des balais pour débarrasser la braise sans nous faire de mal. Qu'ils passent. Femme qui est dans la troisième cour, femme géante, jetez-les dans le puits et noyez-les. Tu nous as laissé nous arracher les cheveux pour tirer du puits l'eau dont tu as besoin. Et eux nous ont donné des cordes pour faire ce travail sans mal. Qu'ils passent. Cochon, cochon qui est dans la deuxième cour, éventrez-les. Tu nous as laissé mourir de faim et eux nous ont donné des glands. Qu'il passe. Chien, chien, dévorez-les. Il nous a laissés affamés et eux nous ont rassasiés des pains qu'ils ont apportés. Qu'il passe. Porte, referme-toi sur eux. Tu m'as laissé rouiller. Eux m'ont huilé, m'ont graissé. Qu'ils sortent. Et les voici dehors. Ils reprennent maintenant le chemin du royaume où habitent les parents du prince. La route est longue. Mais au bout de quelques jours, le prince se dit, les trois oranges, l'amour des trois oranges. Et il ouvre la première des trois oranges. De cette orange sort une jeune fille ravissante. Et cette jeune fille regarde le prince et lui dit « Amour, amour, donne-moi à boire. Amour, amour, dit le prince, je n'ai point d'eau. Amour, amour, je meurs. » Le prince l'embrassa mille fois. Il la pleura pendant une semaine. Puis, aidé de ses compagnons, il l'enterra et ils reprirent leur marche. Quelques jours plus tard, le prince se dit, de la première orange est sortie une jeune fille qui voulait boire.
Celle qui sortira de la seconde orange voudra probablement manger. Et il achète des provisions et il dispose tout sur le bord du chemin pour un repas. Il ouvre la deuxième orange. Et de cette deuxième orange sort une jeune fille encore plus belle que la première. Et cette jeune fille dit « Amour, amour, donne-moi à boire. Amour, amour, dit le prince, je n'ai point d'eau. Amour, amour, je meurs. » Et elle meurt. Le prince l'embrassa mille et mille fois. Il la pleura pendant une semaine, puis, aidé de ses compagnons, il l'enterra et il reprit sa route. Avant d'ouvrir la troisième, la dernière orange, l'ultime chance, le prince achète ce qu'il faut pour un repas et attend d'être près d'une fontaine. Pour ne pas perdre de temps, avec son casque, il puise de l'eau dans la fontaine et il ouvre la troisième orange. La jeune fille qui sort de cette orange, il n'existe de mots dans aucune langue humaine pour la décrire tellement elle est belle. Et elle s'écrie « Amour, amour, donne-moi à boire. Amour, amour, dit le prince, voici de l'eau. Amour, amour, emmène-moi. » Et les voici qui reprennent leur marche, leur longue marche vers le royaume des parents du prince. Ils sont arrivés maintenant dans un royaume voisin. Le roi de ce royaume avait une fille, a une fille. Il aurait bien voulu que cette fille épousa le prince. Mais les parents du prince n'avaient pas voulu d'elle, car elle avait mauvaise réputation. Ce roi voisin dit au prince, « Comment ? Tu retournes dans ton royaume avec ta fiancée, l'amour des trois oranges. Mais as-tu regardé comme elle est ? Sa robe est déchirée. Ses pieds sont poussiéreux. Non, ça n'est pas possible. Comment elle va entrer comme une pauvresse dans le royaume dont elle sera plus tard la reine? Non, non. Retourne seule chez tes parents. Prends avec toi un cheval blanc caparaçonné d'or, une robe de merveille, des bijoux somptueux. Reviens ici, et à ce moment-là, ta fiancée pourra faire, dans son futur royaume, une entrée digne d'elle, digne de toi, digne de tes parents, digne de son sort futur. » Le prince se dit que le roi a raison. Mais, dit-il, et que deviendra-t-elle pendant ce temps-là ? Mais c'est très simple, dit le roi. « Ma fille restera avec elle et s'occupera d'elle. » Le prince se dit, « Tout cela est raisonnable. » Et à grand regret, il quitte l'amour des trois oranges. Les deux princesses sont seules ensemble. Le roi, père de la méchante princesse, lui a dit, « Reste toujours avec l'amour des trois oranges. Observe-la bien, afin plus tard de pouvoir te faire passer pour elle. » Et voici que la méchante princesse est en train de peigner les cheveux de l'amour des trois oranges. Et pendant qu'elle est derrière l'amour des trois oranges, la méchante princesse tire du revers de sa robe une longue épingle et l'enfonce dans le crâne de l'amour des trois oranges en disant « Amour, amour, change-toi en colombe et... » C'est une colombe blanche qui s'envole et l'amour des trois oranges a disparu. Quand le prince revient du royaume de son père, avec le cheval blanc caparaçonné d'or, avec la robe de merveille, avec les bijoux. C'est la méchante princesse, c'est la sorcière. Laquelle?
Eh bien, te revoilà, que je suis heureuse de te revoir.
Elle a mis les habits de l'amour des trois oranges. Mais, dit le prince,
mais tu ne me reconnais pas? Ah oui, je suis beaucoup moins belle qu'avant, mais ce sont les fatigues du voyage, le chagrin de ton absence qui m'ont rendue telle. Quand nous serons dans notre royaume, quand je serai ta femme, heureuse, reposée, je serai aussi belle et même plus belle qu'avant.
Et le prince se laisse persuader et il part avec celle qu'il croit être sa fiancée. Il entre dans son royaume. Il présente la méchante princesse à ses parents. Il la présente comme sa fiancée. Et le soir, quand le roi et la reine se retrouvent seuls dans leur chambre, le roi dit, « C'était bien la peine d'aller si loin, de subir tant de fatigues, tant de dangers pour ramener une fiancée aussi laide, et la reine ajoute, et qui a l'air si méchante. Mais un prince n'a qu'une parole. Il a promis d'épouser celle qu'il croit être sa fiancée. Il l'épousera. Et l'on prépare tout dans le château pour les noces. Bien sûr, celui qui a le plus de travail, c'est le cuisinier. Et dans 3 jours, c'est le jour du mariage. Le cuisinier est dans sa cuisine, dans les caves du château. C'est la nuit. Il travaille, il travaille. Et voilà qu'il entend une voix qui dit, « Cuisinier, tourne, tourne le rôti, car si le rôti est brûlé, le roi n'en voudra pas manger. » Le cuisinier cherche d'où vient cette voix. Et tout ce qu'il entend, c'est un froissement d'ailes dans la cheminée. La nuit suivante, le cuisinier est encore à son travail, mais il se tient près de la cheminée. Et voilà que la voix se fait entendre à nouveau. Cuisinier, tourne, tourne le rôti, car si le rôti est brûlé, le roi n'en voudra pas manger. Le cuisinier se précipite, il regarde dans la cheminée et il aperçoit une colombe qui s'envole. Alors au matin, le cuisinier va trouver le roi. Il lui raconte ce qui s'est passé dans la cuisine 2 nuits de suite. Et le roi donne ordre à ses gardes d'attraper une colombe, de la capturer, mais surtout sans lui faire de mal. Et les gardes ne réussissent pas à trouver la colombe. Fin de la première face de l'amour des trois oranges. La suite au verso.